With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply. No.
Je suis un peu plus détendue pour moi vivre, moi profiter de ma vie aussi, parce que finalement j'en ai 33, 34 et en fait ça fait 6 ans que je me suis mise de côté et plus avant, mais avant je m'en rendais pas compte, tu sais, c'était je vivais ma vie, j'avais pas forcément envie d'être amoureuse, je comprenais pas le concept déjà, en vrai. Vraiment, c'est genre je vois plein de gens amoureux autour de moi, je fais ok, ça a l'air cool. Ou pas d'ailleurs, parce que du coup ça se finit assez régulièrement les mecs quand même. Et tu te dis ouais non en fait. Je veux ça, mais je veux pas ça, parce que déjà, j'arrive pas à me gérer émotionnellement. Je comprends pas mes émotions, et je comprends pas comment me connecter à d'autres individus. Et donc, du coup, j'avais pas forcément ce besoin de vivre. Enfin, tu vois, je partais en vacances, truc bidule, mais j'étais quand même très dédiée à la tâche que je m'étais conférée avec l'asso, notamment, et j'étais à fond, littéralement à fond. Mais c'est pas que ça, la vie, quoi.
Extimité. Le désir de rendre visible une partie de sa vie intime. Afin de mieux se l'approprier.
Alors, petit disclaimer pour nos auditeurices. Anthony, malheureusement, n'a pas pu être présent pour l'enregistrement de cet épisode. Du coup, il demande un grand pardon à tous ses fans et il s'excuse profondément.
Bonjour à tous, moi c'est Agi, j'ai 33 ans, bientôt 34, et je suis chef de projet et formatrice dans un Fab Lab à Gonesse dans le 95. Et à côté de ça, je coordonne une belle asso qui s'appelle La Retourne, où on fait des actions avec et pour les sans-abri.
Agi, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois?
Là, à l'instant T, je vois quelqu'un d'heureux, qui est intéressé par le monde, par son monde, et qui essaye de faire des choses bien. Mais je vois pas encore quelqu'un que j'aime pleinement. Je pense que ça vient. Juliette est quelqu'un qui m'aide beaucoup là-dedans, mes proches aussi, hein, mes très bons amis, Clara, ma famille, m'aident beaucoup là-dedans, mais c'est toujours compliqué, t'es toujours dans un battle entre ton identité pour toi et ton identité pour autrui, donc les gens voient des bonnes choses en moi, me voient belle, truc, bidule, mais on a beau te le répéter mille fois, ton cerveau il veut pas, il a dit non, t'es moche aujourd'hui, donc t'es moche aujourd'hui frère, t'auras beau me dire 20 fois que je suis belle, ça marche pas. Mais tu vois, quand Juliette me dit des belles choses, contrairement à une période, je ne dis rien, tu vois, je dis pas non, mais tu rêves, mais c'est pas ça, c'est l'amour. Non, parce que je sais qu'elle le dit avec un cœur pur, tu vois. Et je trouve ça hyper beau, en fait. Et je pense que dans le miroir, je vois ça. Je vois beaucoup d'elle. Et ça, c'est beau.
Du coup, Agi, est-ce que tu veux bien me parler de ton enfance?
Oh, vaste sujet. Ça remonte à loin, maintenant. Alors, j'ai grandi pas très loin de Versailles. Du coup, avec mes deux parents, j'ai deux grands frères qui ont à peu près 10 ans de plus que moi. 10 et 9 ans de plus que moi. Wissem et Yacine, donc j'ai deux grands frères. Ça a été une enfance plutôt calme, pas de soucis. On était dans un coin assez tranquille, hein, mine de rien, à côté de Versailles, je suis à quoi, 3 minutes de la forêt, donc j'ai pas vécu en cité, j'ai pas vécu, voilà, mon bâtiment il fait 4 étages quoi, donc ça a été plutôt calme. Je pense que j'ai été une enfant, on va dire un peu garçon manqué très tôt. Avec deux grands frères, c'est pas que j'ai pas trop eu le choix, mais je pense que j'avais pas beaucoup de figures féminines autour de moi. Ma mère était déjà quelqu'un d'assez tough, assez costaud, donc finalement, j'avais pas ce truc de féminité très tôt, et pourtant mon papa, il rêvait d'avoir une fille. Donc il était déçu deux fois, et finalement trois, quand il s'est rendu compte qu'en fait, j'aimais la bagarre et pas les trucs de filles, quoi. Donc ça a été vraiment très calme, c'était y a rien, il y a pas eu d'éclat, il y a pas eu de tout s'est assez bien passé. Après voilà, j'ai vécu dans un environnement qui me ressemblait pas. Jusqu'aujourd'hui, 30 ans après, j'ai grandi avec des voisins qui ne savent pas prononcer mon nom. Donc j'avais ni de figure féminine et ni de gens qui me ressemblaient. J'étais là, une des seules maghrébines à l'école. Jusqu'à très tard, jusqu'au collège, je pouvais les compter sur les doigts d'une main. Je pense que mes parents aussi ont eu ce besoin de, pas de s'intégrer, parce que c'est pas du tout le terme, mais de s'acculturer, parce que je pense qu'on leur a demandé, il y a eu des injonctions. Moi, je sais qu'on m'a raconté très tôt que, voilà, mon grand frère, je crois que c'était Wissem, qui en maternelle a voulu, avait envie de faire pipi, et il l'a dit en arabe, quoi. Et du coup, personne ne le comprenait. Alors que bon, je pense qu'il y a des gestes universels qui font qu'ils auraient pu le comprendre. Et ça a été violent pour mes parents. Ils se sont dit, ouais, mais en fait, faut mettre ça de côté et faut que ça soit français, quoi. Donc, moi, c'est vrai que je comprends l'arabe, mais je ne l'ai jamais vraiment parlé. Donc voilà, c'est au-delà de l'intégration, ça a été de l'acculturation. Et je pense que ça a créé des manques après, ou en tout cas... des choses qui font que je ressemble pas vraiment à mes congénères, avec des gros guillemets. On les voit pas, mais je fais des guillemets. Et ça, je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée au lycée, quoi. Ouais. Avant, j'avais personne qui me ressemblait. Et du coup, moi, je me suis construite beaucoup à la marge, je pense. Sur plein de niveaux de mon identité. Mais c'est pas des trucs sur lesquels j'ai réfléchi tout de suite, quoi. Ça, c'est... déconstruit quand je suis arrivée à la fac et que j'ai fait de la socio, quoi.
Du coup, quand tu parles d'acculturation, notamment de tes parents, est-ce qu'ils t'en ont parlé de ça, ces choses-là, ou c'est juste des choses que t'as ressenties?
Ouais, c'était plus du ressenti ou des petites anecdotes comme je l'ai raconté là, qui fait que, bah voilà, faut faire comme les Français. Et pourtant, je suis née à Versailles, donc être plus français que ça, c'est compliqué. Donc ouais, c'était plutôt du ressenti, du... faut que tes cheveux ils soient bien plaqués, que tu sois bien coiffé. Enfin, moi ça a été un grand truc, les cheveux. C'est très tard que quand j'ai décidé de me couper les cheveux, parce que voilà, c'était un grand truc d'avoir les cheveux très longs pour ma maman, bien coiffés. Et je l'entends encore quand il y a ma nièce à la maison, du fait qu'elle est pas coiffée, alors que bah, en fait elle a juste les cheveux bouclés, quoi. Elle a pris ça de notre côté. Donc moi aujourd'hui, quand j'ai les cheveux lâchés, pour ma mère, c'est pas être coiffée. Et du coup, c'était des petits trucs comme ça qui faisaient que fallait que, entre guillemets, on ressemble aux Français, alors que ça veut absolument rien dire. Mais du coup, voilà, faut tout bien faire, faut pas la ramener, faut être discret. Alors clairement, mes deux frères, je pense que ça va encore. Alors moi, j'étais tout sauf discrète, quoi. Je pense que c'est encore une catastrophe pour ma mère, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, quand elle me regarde, des fois, elle doit halluciner entre les piercings, les tatouages, les cheveux, le style un peu excentrique. C'est une catastrophe pour elle. J'ai fait tout l'inverse de ce qu'elle aurait voulu. Et mon père aussi, il le dit pas, mais je pense qu'ils comprennent que c'est ma personnalité et que moi, j'ai dû l'affirmer comme ça parce que je ressemblais pas aux autres. Et j'ai jamais ressemblé aux autres, en fait. Et moi, je trouve ça génial, mais c'est vrai que le monde a du mal à comprendre ça, quoi.
Et quand est-ce que t'as réalisé que t'étais pas comme toutes les autres filles, justement ?
Alors, je pense que, globalement, au-delà de pas se sentir comme les autres filles, je me sentais pas comme les autres êtres humains. Ça veut dire que, très tôt, j'ai compris que je fonctionnais pas comme les autres. Et je me suis dit, je suis bizarre. Tu vois, c'était le premier terme. Et toute ma vie, on m'a répété que j'étais bizarre ou étrange... Je faisais rien comme les autres, mais ne serait-ce que cette phrase qui est très basique, « Ouais, mais toi, tu fais rien comme les autres. Oh, » C'est relou. C'est relou parce que moi, ça a été très compliqué jusqu'à il y a 2 ans où j'ai compris que, en fait, j'avais des syndromes autistiques, tu vois. Et que, en fait, c'est pas que j'aime pas les gens, c'est pas que je fais rien comme les autres, c'est que, en fait, mon mode de fonctionnement, il est pas du tout comme la majorité des gens, en tout cas. Pas comme tous les gens, parce que bah, forcément, dans le lot, il y a des autistes, il y a des gens qui n'ont pas la même forme d'intelligence, pas le même fonctionnement. Mais jusqu'à, en fait, mes 30-31 ans, je me suis toujours dit, il y a un truc qui cloche, meuf. Pourquoi tu peux pas faire comme les autres? Pourquoi quand t'arrives dans un lieu, tout est très compliqué pour toi, t'arrives pas à te connecter aux gens, t'arrives pas à... Ou même dans les études, moi j'ai failli être une décrocheuse. J'ai pas eu mon brevet... Je suis allée en bac pro, pour moi c'était un truc de cancre au possible, et en fait, en vrai, à l'époque j'étais une cancre, c'est juste que bah, l'éducation nationale et le fonctionnement, il m'allait pas du tout,
Mais forcément, tu le comprends pas parce que bah, tes parents ils sont illettrés, donc en fait, il n'y a pas ce truc où tu remets en question ton truc, où tu prends du recul. Je me suis juste dit que j'étais bête, parce que mes profs me disaient que j'étais bête. Aussi simplement que ça. Alors, je suis allée en bac pro, et puis après, je me suis dit, allez, vas-y, viens, on va à la fac, et si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. Et ça a marché, mais parce que du coup, l'université permet de pouvoir réfléchir autrement, ou en tout cas, peut-être que c'est la sociologie aussi qui fait que j'ai pu utiliser ma curiosité et le fait de rencontrer des gens, ce qui m'a passionnée dans la sociologie, et du coup d'avoir ce recul sur moi, et d'à ce moment-là déconstruire tout ça. Et je l'ai compris 10 ans après, tu vois, mais je pense qu'il y a des bases qui se sont faites à ce moment-là, en fait.
Du coup, tu arrives donc au lycée, tu as parlé, c'est la première, le premier moment de déconstruction. Qu'est-ce qui se passe au lycée, en fait? Quel est le déclic?
Le déclic, c'est que je vois des gens comme moi. En vrai, c'est juste ça, le déclic. C'est que je vois des Noirs et des Arabes. Et bon, j'en ai vu dans l'espace public, évidemment, mais si tu veux, à Versailles ou dans le coin où je suis, j'avais jamais vu de... Enfin, c'est pas que j'en avais jamais vu, mais du coup, ils étaient très francisés aussi. Donc, voilà. Mais arrivé au lycée, je vois des gens qui font ressortir cette culture, en fait. Que moi, j'avais pas ou peu, ou c'était des choses très, très basiques. Voilà, j'allais au bled tous les ans. Mais voilà, ça a toujours été d'une violence inouïe aussi, parce que le décalage fait que t'es une Française là-bas. Tu parles pas arabe, et quand tu essaies de parler arabe, on se moque de toi. T'as pas tous les codes. Et là, j'arrivais quand même dans un environnement où j'avais un peu des codes. Et du coup, c'était rassurant. Maintenant, je me retrouvais dans un environnement où on avait un peu mis tous les Noirs et les Arabes, en fait. Qu'ils étaient intelligents ou pas intelligents, ou qui aimaient pas l'école, ou qui n'aimaient pas l'école, c'était pas le problème. C'était que il y avait un tas de gens où on savait pas où les mettre, en fait. Et finalement, ça m'allait bien, parce que vu que je savais pas où était ma place, je me rendais compte que j'étais pas toute seule à pas savoir où était ma place. Et ça a commencé à être rassurant, là. Maintenant, ça a été 4 années où moi, je me suis éclatée, parce que je me suis rendu compte que parmi les cancres, je pouvais être la première des cancres. En gros, c'était vraiment ça. Où je me suis dit, en fait, j'ai trouvé des trucs... Enfin, j'ai fait de la compta, hein, c'était pas un truc qui m'a passionnée. Mais ça m'a rassurée en me disant, je peux quand même faire des choses, et je pense que ça va, en fait, en vrai, ça m'a tellement, entre guillemets, donné confiance que j'ai pris le pari d'aller à la fac, bien que mes profs n'y croyaient pas. Et pourtant, j'avais un prof qui était génial, un prof de français, qui croyait en mes capacités, genre vraiment fort, hein, et tout. Il me donnait des dissertes et tout, alors que j'en avais jamais fait ça, et il me donnait des livres à lire et tout. Mais quand je lui ai dit que j'allais à la fac, il m'a regardé avec des gros yeux en me disant, mais c'est pas le chemin. Mais si j'avais emprunté le chemin qui m'était dû jusque-là, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait, quoi. Donc j'y vais, je prends le pari, ça marche pas, c'est pas grave. Et pourtant, j'avais qu'un plan A à l'époque, et j'aurais pas réussi, je pense que ça aurait été très compliqué. Mais je me suis dit, ouais, non, le déterminisme, non. Mes parents, ils ont subi ça toute leur vie, je l'ai subi une partie de ma vie, yolo, on s'en fout, ça marche pas, on va voir.
Du coup, qu'est-ce qui se passe à la fac?
À la fac, je rate ma première année, lamentablement, parce que t'arrives dans un truc où c'est l'indépendance. Contrairement au lycée, où moi, j'ai toujours quand même vécu dans un petit cocon, où fallait pas trop sortir, tu vas pas trop loin, mais tu joues en bas du bâtiment et je peux te voir. Et là, à la fac, ça a été la liberté, mon emploi du temps, ça a été la liberté, donc... C'était une année de manifestation, de grosses manifestations, c'était le CPE à l'époque. Et au-delà de ça, tu vois, au-delà que j'allais aux manifs, et c'était mes premières manifs d'ailleurs, en vrai, il y avait un gros décalage entre moi et les gens qui arrivaient d'études générales. J'ai pris la socio parce que j'ai lu 3 lignes dans un descriptif, tu vois, et le seul mot dont je me souviens, c'était curiosité. Donc je suis arrivée, j'avais fait quelques dissertes avec mon prof de français, mais en vrai, c'était une catastrophe. Je me rappelle quand je suis allée voir les résultats du bac, il y avait mon prof de français et il m'a offert mon premier livre de socio. C'était Durkheim, mais c'était le suicide. Fun. hyper fun. Mais en vrai, ce bouquin m'a passionnée et je l'ai lu, je me rappelle, j'étais partie au bled pendant l'été et je l'ai dévoré, mais ça a été mon premier contact avec la sociologie, je savais pas du tout ce que c'était.
Donc voilà, tout ça fait que ce shaker a fait que bah, j'ai raté ma première année, lamentablement. Mais j'ai pas lâché l'affaire, je me suis dit, c'est charmé, je sens qu'il y a un truc qui est passionnant. Tu vois, je me souviens de quelques exercices où, bah, je sais pas, il y a une prof qui arrive et qui dit, voilà, votre, vous allez faire un petit mémoire sur une rue. Mais tu la regardes, tu dis, quoi ? J'ai pas compris. Enfin, bah, vous allez vous poser dans une rue que vous aimez bien et vous allez observer pendant X temps. C'est génial, ça. C'est une consigne qui n'a ni queue ni tête, j'adore. Et j'ai kiffé. Ou faire son arbre généalogique. Et là, pareil, bim, tu dois contacter les cousins au bled, tu dois parler à tes parents, enfin, quand je dis parler à tes parents de leur histoire. Et ça, je pense que, je sais pas si c'est inhérent à nous autres fils d'immigrés, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est beaucoup de douleur, je pense qu'on se rend pas compte, hein, c'est beaucoup de douleur, c'est des choses traumatiques, c'est aussi beaucoup d'amour. Et là, je déconstruis et je me rends compte que finalement, mes arrière-grands-parents étaient noirs, tu vois. Et du coup, c'est vrai que des caractéristiques physiques chez moi s'expliquent, tu vois, ou chez ma mère. Ma mère, elle a un petit nez épaté, vraiment. Pourtant, elle est très blanche. Et voilà, tu déconstruis, tu te rends compte que ton grand-père maternel est mort du typhus à la guerre et qu'en fait, même si tu le savais un peu, que bah, ta mère a été adoptée et qu'elle a eu 7 frères et sœurs, enfin. Et du coup, tu fais toute la chronologie comme ça et tu te dis, ah ouais, putain, en quelques messages Facebook, parce que c'était comme ça que je l'ai fait, bah, tu découvres que plein de choses s'expliquent. Et je me suis dit, ça, je veux pas le lâcher parce que ça me permet de mieux connaître mon entourage très proche, moi, beaucoup, parce que tu fais pas de sociaux sans déconstruire qui t'es, quoi. Parce que, voilà les biais, moi je sais que j'ai fait des mémoires sur les familles lettrées. Bah, j'aurais pas pu le faire correctement si j'avais pas déconstruit. Et ça demande effectivement de la réflexion. Ton hypothèse de base, elle arrive, mais elle arrive parce que bah, faut commencer à parler à ta mère, tu vois, à ta mère, à tes parents, de bah ouais, qu'est-ce qui fait que toute ta vie t'as pu réussir à te débrouiller sans savoir lire et écrire, tu vois. Moi je trouve ça époustouflant encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait que rien ne t'a donné envie d'aller vers cet apprentissage?
On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies.
Et tu te rends compte qu'en fait, les personnes illettrées sont des personnes hyper intelligentes parce qu'elles créent des mécanismes des stratégies de contournement folles pour réussir à ce qu'elles ont fait. Parce que finalement, elles se sont installées ici, elles ont eu un appart, elles ont géré des choses administratives de ouf, des demandes de naturalisation ou des renouvellements de cartes de séjour. Ou quand je vois encore aujourd'hui ce qu'on demande à mes parents, 40 ans après, plus de 40 ans après, j'ai envie de dire les fins. C'est d'une violence symbolique encore, enfin, et c'est tout le temps en fait. Et ça a été la socio, ça m'a permis d'ouvrir de fou. Et je parle de mon très proche, mais sur le monde, sur le monde. Et ça a été encore aujourd'hui. Si je pouvais y retourner, j'y retourne.
Quand tu parles d'illettrisme, est-ce que tu parles d'illettrisme envers le français ou envers leur langue d'origine aussi?
Alors pour ma mère, c'est les deux. Okay. C'est les deux parce qu'elle est née dans les années 40, c'était la première fille, et il y en a eu 6 ou 7 d'après, je ne sais plus exactement. Donc sa maman n'était pas vraiment une maman, en tout cas dans le sens je fais à manger, je suis dans l'éducation primaire de mes enfants. Elle était là, hein, très présente, mais du coup c'est ma mère qui s'occupait de tout ça, des lessives, des trucs, des bidules. Donc t'as pas le time de l'apprentissage. Et puis les années 40, Bon, éduquer les filles, ouais, bof, pourquoi pas. Et pourtant, on était en Tunisie, hein, ça arrivait après, mais non, c'était pas une priorité. Mon père est allé à l'école coranique, donc il avait les bases de l'arabe, qu'il a perdu tout un temps, et qu'il a un peu repris quand il s'est mis à la religion à la retraite. Donc il y a eu tout un pan où, voilà. Moi, je me rappelle, hein, quand j'ai commencé à entrer dans les apprentissages, je me rappelle avoir consacré un de mes cahiers 21-29-7 à ma mère pour qu'elle s'exerce à écrire son nom, son prénom, son adresse, au cas où, tu dis, ouais, mais c'est quoi ces infos? Et je me rappelle lui faire faire des lignes, tu vois, moi et mes frères. Là, je pense qu'elle a... Enfin, après, tu vois, tu rentres dans tes apprentissages et malheureusement, tu prends plus le temps. Et c'est dommage. Mais ouais, ma mère, des fois, je me dis... Enfin, je sais pas, tu vois, t'es dans un monde où t'es aveugle, en fait. Et des fois, ça m'angoisse. Et je me dis, bah, en fait, non, elle en a 77 aujourd'hui. Finger is the nose, tu vois. Et en fait, il y a d'autres choses qui te permettent de te repérer. Après, voilà, ma mère reste dans un cercle très, très restreint de son quartier, finalement. Mais je sais que mon père est un vadrouilleur de l'extrême, donc quand je dis de l'extrême, c'est il prend le métro. Mais ouais, tu vois, les codes couleurs, les trucs, les repères.
Oui,
les,
c'est ça, j'arrive pas forcément à imaginer, à me mettre à la place.
Non, mais c'est ouf.
Comment il faisait.
Et des fois, il me rend ouf parce qu'il me demande des trajets et tu sais, t'as pas le temps et tout, tu dois lui expliquer, et puis il est à moitié sourd, donc, puis il s'énerve et tout. Et en fait, tu redescends en pression et tu te dis, ouais, mais mets-toi à sa place, tu vois, de pas savoir où tu dois aller. Quand tu vois les gens, en fait, dans les transports, ils prennent pas le temps, tu vois. Moi, la dernière fois, j'étais à Gonesse, bah, j'allais au taf, et puis il y avait un vieux monsieur qui devait aller à l'OFI. Donc, du coup, c'est l'Office français de l'immigration et de je sais pas trop quoi.
L'intégration.
C'est ça. Et du coup, bah, tu vois, t'as une map sur ton téléphone, donc tu te dis, tiens, comment je vais lui expliquer, je suis une quiche en orientation, et tu vois, tu tapes un détour de 10 minutes, et c'est pas grave, tu le fais. Et je me suis dit, voilà, je me suis imaginé mon père, tu vois, en me disant... Bah ouais, tu prends 10 minutes, tu le fais, il caille, il fait froid, il pleut, ouais, tu t'en bats les couilles, vas-y, tu le fais. Mais voilà, tout le monde n'est pas comme ça, donc voilà, et c'est compliqué, et ça a toujours créé des tensions énormes entre moi et mon père, parce que selon lui, on n'a jamais pris le temps de le faire alors qu'on le fait, mais c'est vrai que c'est délicat, quoi. Moi, je déteste les trucs administratifs en plus, c'est une angoisse monstre, et je pense que c'est de toute cette violence symbolique dont je me souviens, tu vois, les administrations... le corps médical, ça a toujours été ça. Et puis on se rend compte aujourd'hui que les choses ressortent, tu vois. Là, les fameuses polémiques sur comment le corps médical traite les racisés. Et tu scrolles, tu lis les tweets et tu te dis « Ah mais oui, ah mais ouais, ok, c'est ce que j'ai vécu. » Et c'est chaud parce que ça remonte et toi encore, tu vois, tu sais, t'es dans ta trentaine et tu l'assumes parce que tu sais lire et écrire. Moi, je sais que des fois, quand ma mère va chez le médecin, bah, elle est diabétique, donc elle y va régulièrement. Tu dis, ouais, t'es pas là, en fait, une fois par mois, qu'est-ce qu'il doit se dire? Et puis des fois, elle dit des trucs et tu te dis, ouais, non, mais je vais le défoncer. Tu sais, c'est ton médecin de famille que toi, t'as quitté depuis longtemps parce qu'il te racontait de la merde et que tu t'en es rendu compte. Mais ta mère, elle a pas le choix parce que finalement, dans ton petit patelin, c'est le seul médecin à côté où elle peut aller à pied. Elle a ses habitudes et tout. Pff, oh, c'est lourd. C'est lourd, mais c'est l'histoire de notre vie, en fait. Et nous, on essaye de déconstruire et je pense qu'il se passe un truc, clairement. Et heureusement qu'il y a des gens qui prennent la parole et qui ont une petite audience pour que les choses émergent. Mais ça a rien d'évident, quoi.
C'est vrai, oui, toute cette polémique, en fait, avec le corps médical. Une fois de plus, ça fait partie de l'intimité du quotidien, en fait. Et il faut que ça ressorte, il faut que ça soit dit par plein de gens pour qu'on se rende compte.
Ah ouais, carrément.
En fait, une fois de plus, c'est systémique, en fait.
C'est ça, c'est exactement ça, c'est exactement le terme, c'est systémique. C'est du racisme systémique. On a commencé à s'en rendre compte, avec les violences policières. Mais finalement, nous, on l'a toujours su. Mais les Blancs ont commencé à s'en rendre compte il y a pile un an, parce qu'aujourd'hui on enregistre, mais c'est les un an des Gilets jaunes. Et là, le corps médical, moi, il y a un an maintenant, ma mère, c'est un an et demi, s'est fait opérer. On lui a enlevé une partie du rein, mais ça a été des mois de errance médicale. Donc, genre, elle y est allée parce qu'elle a décompensé cardiaquement et de manière respiratoire, tu vois. Donc, on s'est dit, c'est un problème des poumons, tu vois. Et en fait, il s'est mis 3 mois avant qu'on se rende compte que... moi, je reçois un appel au taf d'une... Alors, je sais plus quand... Une meuf qui gère les reins, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Et elle me dit, oui, il y a un problème avec le rein de votre mère. Je dis, quoi? C'était pas du tout ça, en fait. C'était genre problème des poumons. Elle a eu une machine pendant un mois de respiration H24 et tout. Et puis, ça s'était réglé, quoi. Et bim, je reçois cet appel... on évoque tout de suite l'ablation du rein et tout.
Donc tu vois, tu montes en pression parce qu'en fait ta mère n'a jamais vécu de problématique de santé à part son diabète, mais qui est régulier. Et 3 accouchements, c'est tout. C'est genre, et puis il y a 33 ans maintenant, tu vois. Donc, et elle a jamais vécu d'autres hospitalisations et tout. Donc tu montes en pression et tu te rends compte qu'en fait, après l'opération, c'est une tumeur. Et tu te dis, mais les mecs, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu 2 hôpitaux, et puis je te parle d'hôpitaux, c'est Saint-Cloud, hein, c'est pas l'hôpital de Poissy où il y a moult problématiques qu'on connaît, tu vois. Genre, si t'as peu de choses près en train de mourir, ne va pas à l'hôpital de Poissy, tu vois. Là, on parle quand même du 92, enfin, tu vois. Et peut-être qu'en vrai, cette violence, elle est encore plus forte, parce que oui, mais vous supportez mieux la douleur, oui, mais c'est pas grave. Alors qu'on sait très bien tous que nos darons, faut vraiment que ça soit dur et douloureux pour qu'ils consultent. Enfin, et nous, je pense qu'on est... Moi, je sais que je vais jamais chez le médecin, parce que c'est comme ça que j'ai... C'est comme ça que j'observe les choses. C'est que moi, ma mère, elle a mis du temps à faire diagnostiquer son diabète. On a mis du temps à appeler les urgences quand elle a décompensé. Et quand je te dis mis du temps, c'est 24, 48 heures. Et quand j'ai appelé les pompiers, je pensais qu'elle allait mourir, clairement. J'entendais plus sa respiration. Et jusqu'à la dernière minute, elle t'a dit n'appelle pas les pompiers. Et tu sais, toi, t'es dans cette matrix de se dire, bah attends, elle se connaît, donc je vais pas appeler les pompiers. Et en fait, tu te rends compte qu'elle est en train de à moitié somnoler et que c'est chaud, quoi. Et qu'en vrai, si t'avais pas appelé les pompiers, ouais, il se serait passé un truc. Mais pareil, t'as les pompiers, t'as SOS médecin qui met 1000 ans à arriver parce que... C'est les mecs, ils sont à distance et ils jaugent ta douleur à distance. Et t'as envie de lui dire, hey mec, vas-y. Et tu sais, t'as envie de... C'est la street qui remonte en toi, t'as envie de dire, vas-y, ramène tes fesses là, je vais même pas. Et ça a été ça 2 fois de suite. Et pendant 3 mois où on sait pas ce qui se passe, mais il se passe un truc. Et elle le sent, tu vois, que c'est pas les poumons, mais qu'il se passe... Jusqu'à arriver au rein, mais... Et moi, je parle d'un cas où ça va maintenant, aujourd'hui. Mais voilà les trucs... Quand j'ai lu les tweets et cette polémique, je dois me dire, mais combien de gens qui sont morts comme ça, en fait? Parce que, oui, mais vous supportez mieux la douleur, vous...
Vous exagérez.
Vous exagérez, ouais, ce grand truc des Noirs et des Arabes d'exagérer. Mais alors qu'on sait qu'ils ont subi toute leur vie et qu'ils ferment leur gueule. Et qui ferment leur gueule sur bien des sujets. Moi, je le vois hein, quand on va dans des administrations. Mais moi, alors que je n'ai rien fait de mal, j'ai mes papiers, je suis en pression. Genre, je parle à la meuf de l'accueil comme si je m'excusais de vivre et d'être là, quoi. Alors que non, je veux juste renouveler un papier, je veux juste faire ça. Alors, j'imagine mes parents, tu vois, qui savent pas lire et écrire et qui arrivent là. T'es obligé d'être énervé, en fait. C'est ça le truc. Moi, il y a encore quelques années, il y a des trucs, enfin, je me disais, ouais, faut être pédagogue, faut être... Et puis j'ai rencontré des afrofemmes, et je me suis dit, attends, elles sont énervées, les meufs, pourquoi? Et je comprends, tu vois, aujourd'hui, je comprends, genre, 3 ans après, où je suis vraiment dans un militantisme, et je comprends les choses, et j'essaie de relier, d'être un bon allié et tout, quand c'est pas mes problématiques, tu vois, quand je suis sur de l'afrofemme, après, on sait pas ce qu'on y met dans l'afrofemme, est-ce qu'on y met les arabes ou pas, tout est une question de bon. Donc je préfère me dire que des fois je suis un allié, j'essaye de juste relayer les choses, et je comprends en fait que on n'est pas le temps pour la pédagogie, c'est usant, on remet en question en plus, tu sais, des années où les meufs, elles ont étudié le truc, où elles peuvent te sortir des ressources à tire-larigot. Pour moi, les afrofemmes, elles sont dans le mille, en fait, du militantisme actuel. Et pas juste dans le truc de faire des tweets, parce que des fois, on les minimise. Ouais, c'est des meufs qui font des tweets, mais en fait, je crois que vous vous rendez pas compte des ressources de ouf. Et même si c'est des trades, et bah, c'est la fac... C'est, on est en 2019, si ça fonctionne comme ça, c'est génial. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'elle crée de l'action. Et ça, c'est ouf, parce que... Si je prends notre exemple, nous les Arabes, on en est à des milieux. Enfin, y a des assos géniales qui font des trucs, quoi. La Lab, mais il n'y en a pas 1000, quoi. Il n'y en a pas 1000, et je pense que nous, on est en retard. Et je pense que les Afrofemmes, c'est un très bon exemple pour plein de militants, en fait. Mais on ne se rend pas compte parce que c'est des femmes noires énervées. Et c'est juste ça pour eux. Alors, putain, je valide de ouf parce que je pense qu'en vrai,
Tu vois, s'il y a des jeunes qui brûlent des voitures en cité, c'est pas anodin. C'est pas anodin.
Et j'ai bien aimé aussi quand t'as pris l'exemple de l'observation dans la rue comme consigne. Du coup, ça me permet de faire le parallèle avec ton association, la rue, ouais. Justement. Est-ce qu'il y, y avait eu des prémices quand t'as observé cette rue?
Bah, écoute, je pense que sur le public sans-abri, ça a toujours été un truc dans ma vie où j'attirais les gens un peu à la marge. Alors, ces gens un peu à la marge, c'est soit des sans-abri, soit des gens alcoolisés dans la rue, des bébés aussi, des enfants. Pour moi, c'est des êtres humains à la marge. Je comprends pas comment ils fonctionnent.
C'est vrai.
Et c'est un truc un peu comme ça de, je sais pas, de vibe, où effectivement, j'ai toujours parlé aux gens. Et pourtant, je suis quelqu'un de pas... Enfin, j'ai toujours du mal à aller vers l'autre, mais du coup, j'ai l'impression qu'on vient assez facilement à moi. Et du coup, j'ai toujours parlé aux sans-abri, des fois même pendant des heures, ou dans la rame de métro, j'ai toujours été la meuf chelou qui parlait aux gens. Je considère que quand quelqu'un essaye de se connecter de la bonne manière, évidemment, et pas juste un mec qui vient te draguer lourdement, bah tu prends la peine d'échanger. Tu vois, que tu sois fatigué ou pas. Parce que si quelqu'un vient s'adresser à toi directement dans une foule ou dans un truc, c'est qu'il se passe un truc. Moi, je crois aux rencontres, aux connexions un peu comme ça, un peu, je sais pas, nébuleuses. Et du coup, très tôt, ça a été le cas. Et je me suis mise à la photo, je sais pas, il y a 10 ans maintenant. Je faisais des portraits, c'était cool et tout. Instagram, enfin non, à l'époque, c'était MySpace et tout, je crois. C'est vieux. Facebook et tout, et c'était génial. Tu sais, t'as des likes, tu fais des photos, c'est cool. Mais à un moment, tu prends... Enfin, tu sais, t'es limité un peu. Tu te dis, ouais, ok, tu fais un taf cool, mais tu pourrais faire un taf plus cool si ça avait du sens. Et je me suis mise à... Je pense que j'étais dans une période un peu dark de ma vie où je me posais beaucoup de questions sur la solitude, ou quand t'es quelqu'un de solitaire, tu te prends toujours le truc de dire, attends, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu? Et puis du coup, j'avais pas du tout déconstruit mon autisme à l'époque, donc là, je le comprends mieux, mais je me suis dit, tiens, je vais prendre cette thématique de solitude en photo. Choisir une thématique photo ou en tout cas artistique à ça, je pense que c'était une façon pour moi de le déconstruire et de le comprendre chez les autres, et du coup ce qui me permettait de comprendre chez les autres allait me permettre de me comprendre moi. Et en fait, en allant dans la rue, parce que du coup moi je fais que de la photo dans la rue, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, bah en fait le premier truc que tu vois, qui répondait à cette thématique, c'était les sans-abri. Mais du coup, j'ai dû faire 2 photos de sans-abri de manière hyper éloignée, des gens à qui je me suis pas présentée, je leur ai pas demandé leur prénom. Et ouais, les photos, elles étaient cool, mais il manquait genre 95% du truc, quoi. T'avais une belle image, mais quand je suis revenue et j'ai édité mes photos, je me suis dit, attends, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste la photo, c'est tout le reste de comment il s'appelle, pourquoi il était là à l'instant T. Qu'est-ce que c'est sa vie? Est-ce qu'il a des passions? Est-ce qu'il a des rêves et tout? Mais ça, je l'ai compris quand j'ai rencontré une autre personne qui écrivait des portraits de sans-abri à l'écrit. Et du coup, bim, le combo a fait que moi, je faisais les portraits et lui posait les questions. Et je pense que c'était rassurant pour l'autiste que je suis d'avoir un binôme et de pouvoir fonctionner comme ça. Et de toute façon, moi, je crois en la force du groupe, ou en tout cas des binômes, des trinômes, qui permettent d'élever le truc. Et très vite, on est allé dans la rue 1 à 2 fois par semaine, on postait notre contenu sur Facebook, et bim, ça a pris des proportions géniales, parce que ça répondait aux gens, et puis parce que je pense qu'on s'était pas pris la tête sur le format,
Et ça se partageait très bien sur Facebook. Et on s'est rendu compte que, bah, en tout cas, lui s'est rendu compte qu'il fallait formaliser les choses, il fallait créer une asso. Il était beaucoup plus jeune que moi, et pourtant, j'étais, voilà, je vivais mon truc, en fait, je me prenais pas la tête. Même si je comprenais que de formaliser, ça pouvait créer un mouvement. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, on fait des hashtags, mais on peut aussi créer des assos. Mais créer une asso, c'est des responsabilités. C'est, tu vois, ne serait-ce que déposer des statuts, tu les déposes à la préfecture. Moi, ça m'angoisse. C'est horrible. Faut écrire des choses, faut signer, faut donner ta vraie identité. Et je l'ai fait parce que j'étais à deux et que je comprenais qu'il y avait un petit move derrière. Donc je l'ai fait. Après, on a dû passer une ou deux années à faire ça. Et puis à un moment, dans ces deux années, c'était cool de faire des portraits, mais je pense que c'est... Moi, j'avais envie de créer des actions avec les gens. Et pas juste prendre un truc, parce que finalement, tu prends un truc quand tu fais des portraits. Tu prends une vie, en plus, parce que des fois, c'est dense. Tu prends une image, tu prends une identité. Donc moi, je voulais faire des maraudes, donc aller dans la rue et ouais, distribuer des choses, des chocolats à Noël, enfin voilà, des livres que j'ai kiffés. Enfin, je trouvais que c'était cool. Et puis bah, là, on n'a pas été d'accord. Et je suis partie sur les conseils de quelques bénévoles qui m'ont suivie. Et c'est pour ça qu'on a créé La Retourne il y a 4 ans maintenant, de manière un peu plus saine, un peu moins égo-trip, je pense, parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'ego. Et moi, je conçois qu'il faut de l'ego, hein, on en a tous, tout le temps dans nos vies, mais il faut, pareil, le déconstruire et le remettre en question tout le temps, parce que t'as vite fait de prendre un peu le chou, parce que forcément, tu fais des trucs autour des sans-abri, et puis voilà, tu fais des belles choses, c'est extraordinaire, tu prends le temps pour les autres, t'es altruiste. Ouais, mais c'est pas que ça, c'est tellement pas que ça. Et tu vois, quand t'entends tout ça, bah, il y a des fois où, ouais, tu prends un peu le melon, tu dis, ah ouais, je fais des trucs géniaux, c'est super.
Je suis une belle personne.
Je suis ma mère Teresa, tout ça. C'était mon pseudo Twitter à un moment. Et non, en fait, tu te rends compte que la relation, elle est loin d'être unilatérale, comme toute relation. En tout cas, quand toute relation saine et équilibrée, c'est loin d'être... Et je le ferais pas, je pense, que si c'était que du don de soi. Enfin, on n'en est pas là. Moi, toute sortie, ou dès que je croise un sans-abri que je connais, c'est génial, parce que c'est pas moi juste qui y vais et qui soit aide, je déteste ce truc-là, ou demande des nouvelles. Ils sont toujours là à me demander comment ça va le taf, est-ce que ça va, t'as fait quoi ce week-end, t'es allé voir quoi au cinéma, enfin... Une relation normale, en fait, y a rien de fou, donc voilà, j'essaie toujours de remettre en question ce truc-là et de dire aux gens qu'en fait, moi, quand j'ai commencé ça, c'était un exercice très égoïste. Et là, je l'ai toujours dit, mais du coup, tu vois, quand je repense au fait de prendre des photos de la thématique de la solitude parce que je pense que je me sentais seule à ce moment-là, bah ouais, c'était égoïste, en fait. C'était grave égoïste, et j'ai aucun souci à le dire, parce que je l'entends, le discours des autres assos ou des autres gens qui créent des mouvements, qui personnifient en plus à fond ce truc-là de... Enfin, j'ai vu une meuf la dernière fois dans sa bio Twitter, elle a mis créatrice du mouvement, je sais plus quoi, réchauffons les sans-abri ou je sais pas quoi... Ah, plus égo-trip que ça, tu meurs. Moi, j'ai rien créé. À la base, j'ai peut-être dynamisé un groupe d'individus. On va dire ça comme ça. Et je pense que je le fais encore aujourd'hui. Mais en aucun cas, j'ai créé un mouvement ou un truc. Enfin, dans ma bio Twitter, si je dis que je suis là, si je dis que La Retourne, c'est l'association à ma maman. Et ouais, je pense que c'est peut-être de là que ça vient. Mais ouais, faut. Je pense qu'il faut le faire de la bonne manière, et il y a plein de gens qui le font de la mauvaise manière. Il faut prendre du recul sur soi, et je pense que c'est sur toutes les thématiques. Là, d'autant plus, parce que c'est lourd, c'est difficile. Nous, on essaye de le faire avec de la bonne manière, et en essayant d'apporter un peu de légèreté sans enlever la dureté de la street, parce que voilà, il commence à faire froid, il pleut et tout. Et ça devient compliqué, quoi. Ça devient très compliqué, il y a de plus en plus de sans-abri, de plus en plus de femmes... Et toi, tu rentres chez toi au chaud, tu prends une douche, tu Netflix, il faut pas oublier ce qu'il y a dehors. Même si t'es pas la solution, nous, on n'est pas la solution, on change pas le monde, clairement. Mais je sais que sur un niveau local, on peut faire bouger les lignes. Et c'est pour plein de thématiques pareilles. Si chacun fait un bout, bah, y a peut-être moyen qu'il se passe un truc, quoi.
Justement, sur cet engagement-là, concrètement, c'est quoi une journée type de maraude?
Ah, pour moi, une journée type de maraude, généralement, elle commence par aller courir en forêt avec mon frère. Bon, il est tôt et tout, il est 8h, il fait noir, mais vas-y. Ça me permet, moi, de bien me réveiller et de pas chiller dans mon lit trop tard, parce qu'après, je sais que moi, je suis du genre à être mal réveillée après, et c'est pas bon. C'est bon pour personne. Donc généralement, je vais m'entraîner, je rentre chez moi, je me douche et je repars instantanément. C'est-à-dire je ne prends pas de petit déj, j'y vais direct parce que si je m'assois, c'est mort. Et je suis au local généralement vers 11h, 11h30 pour faire le café. Généralement, on a 5 voire 6 teams sur le terrain, donc il faut préparer 5 fois 2 thermos, un de café, un de thé. Et nous, on veut faire notre café, je pense que c'est important parce que déjà, tu prends le temps de faire un truc pour les gens et c'est cool. On a un local en plus, donc c'est bien de prendre le temps. Avant, on distribuait des sachets de café dégueulasse là. Et en vrai, sans abri, pas sans abri, je donne pas ça à mon pire ennemi en fait. On n'avait pas le choix, mais un vrai bon café, franchement. Quand sur le terrain, on te dit que ton café il est bon, tu te dis ouais, putain, lourd. Je me suis pas réveillée pour rien, ça me fait plaisir. Parce que ça réchauffe et pas juste ça, quoi. Boire un bon café, pour ceux qui boivent du café, c'est charmé, quoi. Donc, et généralement, c'est mon petit moment autiste. Ça veut dire que même quand il y a un autre de mes co-bureautiers qui arrive plus tôt que moi, généralement, il sait qu'il faut pas qu'il touche au café. Tu vois, c'est genre mon moment, ma bulle où je mets du son. J'Instagram, je fais mes trucs et tout, je range un peu le local. Et genre, c'est mon heure, voire mon heure et demie, avant que 30 bénévoles arrivent dans le local. Et avant de passer une après-midi dehors à donner de l'énergie, à être dans l'écoute active et tout. Parce que je sais que c'est difficile, déjà c'est difficile pour un être humain lambda. Et c'est encore plus difficile pour moi en fait de... Je suis une vraie éponge et du coup, quand j'en ressors, généralement je suis rincée, je fais rien après, je rentre chez moi... Mais je kiffe, en même temps je kiffe, tu vois, je suis dans un truc d'autiste, hein. En même temps, c'est tellement charmé de faire ça, parce que, d'une part, t'arrives à connecter des gens qui sont hyper différents, genre, moi, ma moyenne d'âge, je saurais même pas te la calculer, ça va de mon neveu qu'on a 13 à peut-être 45, 40, 45, des origines différentes, des religions différentes, quand je vois les associations autour, moi je flippe, c'est pas représentatif du tout, c'est genre... Ouais, mais les mecs, vous êtes en train de discuter entre blancs, moyenne d'âge 40, 50 ans, et je suis gentille. Classe moyenne, des gens qui n'ont pas de problème dans leur vie, en vrai, voilà. Et je me dis, moi j'ai créé une asso pour aider les gens dans la street, mais j'ai aussi créé une asso parce que je pense que c'est cool d'être accompagné là-dedans et d'aider des gens aussi, parce que je pense que les bénévoles sont aussi... Bon, pas tous, mais dans des situations qui sont compliquées, et que d'être dans un groupe, bah, ça peut être salvateur. Donc moi, je tiens aussi bien à l'ambiance entre mes bénévoles qu'à mes actions, quoi. Pour moi, c'est important. Je gère des êtres humains de manière globale, et ça, faut pas l'oublier. Et la diversité, bah, c'est là que t'apprends. Moi, je sais qu'il y a des gens, je pense que je les aurais croisés dans la rue, je leur donnais pas l'heure, tu vois. Et pourtant, c'est chambé, je me tape des barres, j'apprends des trucs de ouf... Enfin voilà, j'ai des 2000, tu vois, j'ai des gens qui ont 18-19 ans dans mes bénévoles, que je kiffe, tu vois. Bah, y a un truc qui nous relie, et ça c'est cool, et je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui, parce que la période elle est dure, et moi je sais que quand je suis au local avec mes bénévoles, que je sois dans le mood ou pas dans le mood, bim, je sais que bah, je vais kiffer. Et je vais en ressortir, et je vais me dire, ouais, ok, je sais que je suis dans la bonne direction, ou en tout cas qu'on fait un truc cool ensemble.
Là je m'adresse un peu à la sociologue. Du coup, qu'est-ce que tu as observé depuis 4 ans, et peut-être un peu avant, du coup, avec ton association dans la rue, les profils que tu trouves, qu'est-ce qui ressort ?
Quand j'ai commencé ça, je me suis... Enfin, tu sais, c'est le premier truc que te disent tes parents, de pas parler à des inconnus. Ouais, j'ai toujours fait tout le contraire de ce que me disaient mes parents, les pauvres. Et nous, on avait tous la figure du clochard. Le dis sans guillemets, parce que c'était vraiment ça à l'époque, tu sais, c'est le mec au coin de ta rue ou en bas du magasin à côté de chez toi qui était généralement un poivreau. Et nous, l'hypothèse était qu'il avait un peu mérité ça et qu'il avait fait de la merde dans sa vie. Et ouais, bah voilà, il est là parce qu'il a fait de la merde. En gros, c'est ça. Personne ne lui adressait la parole parce que soit il était toujours vénère, soit il était tout le temps bourré. En gros, c'était la figure qui, il y a 20-15 ans, était prédominante. Moi, quand j'ai commencé ça il y a 5-6 ans, déjà, en vrai, tu te rends compte que y a des gens qui te ressemblent, qui ressemblent à ton voisin, à ton père, à ton collègue, qui ont des familles, des histoires, qui ont fait des études, qui avaient des vrais tafs. Ils étaient conseillers bancaires, profs. À un moment donné, bah, soit ils pètent un câble, soit ils décohabitent, soit ils divorcent, enfin, des trucs très... Bah, très basique dans nos vies de tous les jours maintenant, et qu'à un moment donné, il rate juste une marche, ça arrive à tout le monde, mais le problème quand ils ont raté cette marche, c'est qu'il n'y avait personne pour les relever. Je l'image toujours comme ça, parce que c'est ça, en fait. Juste, tu vois, décohabiter avec sa femme, bah, le truc fait que, si je prends l'exemple de Pascal, il a eu des problèmes avec son patron à l'époque, il pensait que, je crois, qu'il couchait avec sa femme, je sais pas trop quoi, ça a toujours été obscur, bref. Décohabitation, enfin, il perd son boulot, il décohabite avec sa femme, il décide de monter sur Paris, parce qu'il était à Annecy, je crois, il monte chez un de ses potes, pas loin de Stalingrad, ce pote décède du sida, bon, il est pas sur le bail, donc il se fait tège, et il a élu domicile sur un banc en face de la rotonde, pendant 17 ans, il a passé son temps là, en fait. Et c'était pas un choix, il est tombé à la rue par dépit, par malchance, et ça a fini par être un choix 17 ans après, s'il avait tout un réseau de solidarité, il était connu de tout le monde, il avait son petit banc, sa petite bibliothèque, il avait des chaises pour les gens qui venaient le voir, enfin, c'était génial, nous on avait fait son portrait, et il est décédé à la rue parce que il y avait je sais plus quel événement sur l'environnement, et puis ils ont décidé de nettoyer la place. C'est vraiment le terme, en nettoyer, parce que du coup, ils ont tout jeté. Ils ont tout mis à la benne, sac de couchage, livres. On va pas faire dans la dentelle, hein, on s'en bat les couilles, hein. C'est juste un sans-abri. Et en fait, ils l'ont retrouvé mort quelques jours après, à 100 mètres, sous un parasol, plein hiver. Bon. Et nous, on l'a su par un habitant du quartier qui connaissait très bien Pascal et qui avait lu notre portrait. Donc je reçois un mail un jour qui m'annonce ça. Voilà, c'est une descente d'organes, tu te dis, putain, je l'ai vu il y a une semaine, il allait bien et tout, donc tu remets, t'as le seum contre la municipalité de Paris qui prend pas de gants, enfin, tout devient très, ouais, tu comprends pas. C'était le premier sans-abri que je connaissais qui décédait à la rue. Depuis, la liste, elle s'est allongée plus, hein, et c'est toujours compliqué. Et quelques jours après, je crois que j'ai eu un mail de son fils qu'il n'avait pas vu depuis 10-15 ans, et qui me demandait de lui envoyer les dernières photos de son papa. Et c'est là que je me suis rendu compte que, je le savais qu'on était dans un travail pédagogique, mais là je me suis rendu compte que je faisais un travail de mémoire pour les familles, et ça a été bouleversant pour moi d'avoir ce mail, parce qu'il n'avait pas vu son papa depuis X années, et qui considérait que j'avais fait des belles photos de son papa, malgré qu'il était marqué, malgré qu'il vivait à la rue depuis 17 ans, et j'en parle avec beaucoup d'émotion 4 ans après, parce que c'est fou de faire un travail qui peut être un peu multi-pédagogique, multi-truc, et moi ça me... Et je pense que quand je déclenche mon appareil, j'ai toujours le même sentiment de me dire, bah... Aussi plein d'amour ce sentiment que bah, ça peut être les dernières photos de la personne qui est en face de moi. Parce que l'espérance d'un sans-abri, c'est 48-49 ans. Donc tous ceux que je connais sont à peu près dans cette moyenne plus ou un petit peu plus basse. Et tu te dis, ouais, en fait, t'as une vraie responsabilité de capturer l'identité de quelqu'un qui a probablement une famille. Et même s'il en a pas, bah ouais, quand même, c'est ouf.
C'est pas parce qu'on dort dehors que les gens nous voient avec le mordu, moi je l'appelle les lucioles avec les deux dans le coin. Ils nous voient avec des a priori. Quand on s'en fout, ça. On a le droit d'être aimé, on a le droit d'aimer. C'est ce qu'on appelle dans la chimie les gens équivalents. Mais pour montrer sa sincérité, son honnêteté, sa franchise. Et après prouver son amour. Mais il faut laisser du temps à ça.
Oui, en fait, tu parles beaucoup d'hommes sans abri.
Oui.
Est-ce qu'il y a des femmes ? J'imagine que oui.
Il y a des femmes, on en croisait assez régulièrement, mais c'était beaucoup de femmes roms ou roumaines. Donc du coup, le dialogue, il n'était pas forcément évident. On était toujours, nous, dans l'aide et tout, on ne fait pas de différence. Clairement, on est dans le truc un peu inconditionnel. Mais du coup, bah ouais, notre mission à nous, qui est de créer du lien et de passer... des fois, on peut passer une heure, deux heures de temps avec quelqu'un. On écoute du son, on fait des tours des magies, on se raconte des histoires et tout. Bah là, du coup, c'est un peu... le temps, il est un peu réduit. C'est un travail que j'essaye de faire, moi. Bah voilà, hein, je suis une femme, donc ça me touche beaucoup plus. Donc mon secteur qui est Châtelet, je m'en connais 3-4 assez bien. Donc ça a été un bonheur, un peu étrange de le dire comme ça, mais un bonheur de me connecter avec des femmes dans la rue parce que forcément c'est un autre son de cloche. Et qu'est-ce que c'est dur, j'en connais qu'on 30 piges là, de 30 à je pense 45 à peu de choses près. Alors je pense à Camille, Sabine, Eva, et là très récemment on a fait le portrait de Muriel qui était à Gare de Lyon, qui a un parcours de ouf. Tu vois, en vrai, plus badass tu meurs quand t'es une femme à la rue, c'est genre, j'en connais pas une qui est pas badass, tu vois, et moi je les regarde avec admiration, parce que tu subis de la violence partout, tout le temps. Moi quand on a fait le portrait de Muriel, j'étais là à faire des photos, hein, et il était quoi, 14h, 15h, Gare de Lyon, tu sais, en dessous de la coulée verte, donc pas plus calme que ça, tu vois, encore Châtelet, tu te dis, Châtelet c'est la street, ça, c'est tous les problèmes de la terre à Châtelet. Là, tu te dis, tu vas être calme pendant le portrait, et puis on est resté peut-être 2 heures. Et en fait, t'es pas calme du tout. Les gars, ils passent, ils t'insultent, enfin, ils insultent Muriel ou ils t'insultent toi. Il y a des regards menaçants, les mecs, ils sont en train de zoner à côté de toi. Enfin, tu dis, wesh, les mecs, samedi après-midi, vous savez pas vous tenir, je sais pas. Tu te dis, encore le samedi soir, les mecs, ils sont bourrés. Et là, tu te dis, en fait, c'est ça toute sa journée. Elle a aucune pression à se lever, à menacer les gens, tu vois. Alors que la meuf a fait 40 kilos toute trempée, elle est petite et tout, mais elle a pas le time. Et moi, je comprends. Enfin, et tu sais, tu repars de ça, je l'ai vu plusieurs fois, tu dis, oh, pff, ouais, c'est dur, quoi, c'est dur, tu rentres chez toi, tu sais que t'as une femme qui pourrait être ta tante, ta mère, ta sœur, et tu sais pas si elle va pas se faire violer ou si elle va pas se faire tuer, en fait, enfin. C'est violent à dire, mais c'est ça. Moi, je me suis dit, à l'époque, Muriel, qui est sortie de la rue maintenant, il y avait un mec, à chaque fois que je passais la voir, il était à 20 mètres de sa tente et il était debout. Et quand je te dis à chaque fois, je suis passée après un apéro Paulette, après la sortie du dernier magazine, je suis passée avant et après, parce qu'on était juste à côté, le mec était là, pas bougé. Le portrait, il était là, toutes les fois où je suis allée la voir, parce qu'elle était pas loin de mon taf, le mec était là. Et moi, il me mettait la pression, le mec, tu vois. Il n'était pas forcément menaçant, mais il était là. Donc c'était une angoisse de ouf, et il était là tout le temps, tous les jours. Et même s'il n'y a pas d'acte violent, même s'il n'y a pas d'insulte, wesh, le mec, il est là devant ta tante. C'est quel niveau de...
Bizarre, enfin,
et tu dis que peut-être qu'un mec, le mec, il va péter un câble et il va la violer, tu vois. Après, tu vois, dans son parcours à Muriel, c'est des choses qui sont arrivées, tu vois. Elle a eu des copains ou des maris successifs où elle a subi violence, viol, violence psychologique, elle a accumulé les cancers, puis elle est là avec le sourire, et elle te raconte ça, et elle pleure, et elle a le sourire, elle pleure, elle a le sourire. Enfin, là, tu te dis, putain, t'as passé 2 heures à côté d'elle, et tu fais les montagnes russes émotionnelles. Après, bah, tu rentres chez toi, en fait. Enfin, tu fais quoi? Et tu sais, tu remets toute ta vie en question. Tu fais, ok, mais... Et c'est toujours une montée d'émotions, tout le temps, en fait. Quand t'es une femme à la rue, tu n'es pas tranquille. Et quand t'es tranquille, c'est parce que t'es une loubarde, quoi. T'es une meuf qui a une grande gueule, qui a pas peur de se taper. Mais c'est pas une vie. T'es tout le temps en tension. Moi, je me rappelle de ces 2 heures d'entretien où mon corps était tendu. Et quand t'en ressors, t'es... Ouais, je vais aller dormir. Il est 18h, mais je vais aller dormir. Tu peux pas subir ça toute la journée. Moi, je... C'est hors de ma compréhension, en fait. Et il y en a de plus en plus. De plus en plus de visibles. Mais ça veut dire que, du coup, celles qui sont invisibles le sont encore d'autant plus. Parce que moi, il y a une époque où je maraudais, je voyais pas de femmes, à part les Roms qui sont très présentes dans l'espace public. Les autres se cachent, tu vois, sous la coulée verte, tu vois, là où était Muriel, bah, il y avait 2-3 femmes, je crois, et c'était que des femmes, mais pourquoi vous regroupez en plus, hein, tu vois, dispersez-vous, et où c'est dans des tunnels, comme à Châtelet, il y a un tunnel, je sais pas où mène ce tunnel, d'ailleurs, c'est un tunnel de l'angoisse, où il y a des camières d'or, enfin, que des endroits glauques, tu sais, où les gens vont se shooter, ou vont fumer leur pipe à crack, en plus, donc, ouais, c'est... Ouais, drogue, prostitution... c'est un combo, tu vois, quand Camille te raconte sa vie, bon, après, il y a toujours des choses que tu dois remettre en perspective, parce que tu sais pas ce qu'est la réalité de ce qu'est le mytho, des fois, ça arrive, ou de ce que ton cerveau, ce que son cerveau a fabriqué, en fait, comme histoire. C'est compliqué. Mais c'est vrai que nous, on prend toujours la, voilà, ce que nous disent les gens pour content. Pour nous, c'est ce qu'ils ont vécu. Et même si c'est pas totalement la réalité, c'est que c'est peut-être une réponse à un traumatisme. Tu vois, Camille, elle nous dit qu'elle a une fille qui a 8 ans. Elle t'a des détails. Elle l'a vue. Truc bidule. Et en fait, quand t'as sa maman au téléphone, elle te dit non, elle a pas d'enfant. Mais voilà, moi, je vais pas aller mettre ma tête contre la sienne et dire eh, tu m'as mytho et tout, t'as une fille. Non, non, c'est peut-être qu'elle a fait une fausse couche. C'est peut-être qu'elle a perdu un enfant. Ou peut-être qu'elle a, tu vois, je sais pas, des violences dans le passé. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un traumatisme. Donc, moi, c'est vrai, quand j'ai vu ça au téléphone, je me suis dit, ah, putain, menti, c'est pas bien. Et en fait, non, tu redescends tout de suite en disant, non, non, mais tu ne sais pas, toi, ce que c'est de vivre ça. Est-ce que ton cerveau peut switcher, en fait? Donc, tu te canalises et tu l'écoutes quand t'as part de sa fille et t'acquiesces. C'est tout.
On sent vraiment que bah, t'es investi émotionnellement, énergétiquement dans tout ça, dans tout ce travail-là.
Mm.
Et toi, comment tu te sens, niveau santé mentale, comment tu te sens?
Je pense qu'il y a eu des périodes compliquées, mais je pense que dès le départ, je me suis dit, faut que tu le fasses pour ta santé mentale, en fait. Après, forcément, tu coordonnes une asso où il y a pas loin de 80 bénévoles, 80 personnalités, ou sur ton terre-terre à Châtelet, il y a peut-être 10, 15 personnes que tu connais bien, c'est autant de responsabilités. T'as un taf, en vrai t'as un taf, t'as une famille. Moi, je sais que j'ai passé des hivers sans voir mes neveux. Tu sais, t'as la tête dans le guidon et tu te dis, ok, tu penses que par échéance, c'est quand la première maraude, c'est quand la première... Et tu ressors de janvier et tu te dis, ah putain, mais qu'est-ce qui s'est passé Noël, le nouvel an. Et tu dis, ok. Donc il y a eu des années un peu compliquées où, tu sais, c'est les débuts en plus, donc tu charbonnes. Moi, j'ai tendance à charbonner fort et à pas réfléchir à ce qu'il y a autour et à avoir une bulle. Et avoir beaucoup de rigueur, donc des fois être un peu pas forcément évidente à gérer. Parce que t'as des êtres humains au bout et c'est, tu vois... Si le duvet, il est demandé un jour, bah, c'est ce jour-là. Parce que tu vas pas attendre une semaine pour filer un duvet en plein hiver, quoi. Donc des fois, la charge mentale, elle est pas évidente parce que je m'oblige à faire des choses des fois où... Ouais, je suis fatiguée, quoi. Je suis fatiguée parce qu'en fait, mon temps de travail dans une semaine à l'assaut, des fois, c'est deux jours temps plein. Et je parle pas que des week-ends, ça peut être les soirs où je dois faire les postes programmés, je dois répondre aux gens... Je dois checker les trucs, les visuels, les bidules, retoucher mes photos. Donc en fait, c'est génial parce que c'est plein de compétences que j'ai développées aussi. Mais en même temps, c'est beaucoup de pression parce que si je poste pas ça à ce moment-là, bah peut-être que du coup, on va avoir moins de bénévoles à la maraude. Et si je réponds pas aux gens, bah ils vont se dire, ouais, c'est qui, ils font les rostas, ils répondent pas au MP. Sauf que frère, j'ai une vie, en fait, il est 23h, j'ai pas envie de répondre à... Ouais, mais vous pouvez me décrire vos actions? Ouais, non, oui, flemme, mais tu pourrais aller voir notre site, ou lire notre description, enfin, tu vois, ou envoyez-moi le lien d'inscription, mais il est partout, le lien d'inscription, tu me rends ouf, mais non, en fait, il faut que tu sois diplomate, parce que, et pas qu'avec les gens qui te sollicitent, mais avec tes bénévoles aussi, parce qu'ils sont là avec du cœur, et faut que tu prennes le temps, et du coup, le temps que tu prends pour tous ces gens qui sont là, bénévoles, sans-abri, followers, bah, tu le prends pas pour toi. Donc c'est moins évident. Maintenant, aujourd'hui, je pense que j'arrive à redescendre un peu, parce que déjà, je suis bien entourée. Tous mes co-bureautiers, que ce soit Hassan, Mathilde, Aurélie ou Youssef, sont des gens très proactifs, et ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pas toujours été très aidée. Donc là, ça va, la distribution des rôles, elle est plus équilibrée, je peux vraiment compter sur eux. Après, moi, je suis quelqu'un de très, très rigoureuse, compte pas sur tout le monde. Parce que les gens prouvent qu'on peut pas compter sur eux, en fait, assez simplement. Donc quand je trouve des gens sur qui je peux compter, et c'est le cas aujourd'hui, et bah je suis un peu plus détendue. Je suis un peu plus détendue pour moi vivre, moi profiter de ma vie aussi, parce que finalement j'en ai 33, 34, et en fait ça fait 6 ans que je me suis mise de côté, et plus avant, mais avant je m'en rendais pas compte, tu sais, je vivais ma vie, j'avais pas forcément envie d'être amoureuse, je comprenais pas le concept, déjà, en vrai.
J'adore.
Vraiment, c'est genre, je vois plein de gens amoureux autour de moi, je fais, ok, ça a l'air cool. Ou pas d'ailleurs, parce que du coup, ça se finit assez régulièrement, les mecs, quand même. Et tu te dis, ouais, non, en fait, je veux ça, mais je veux pas ça, parce que déjà, j'arrive pas à me gérer émotionnellement. Je comprends pas mes émotions. Et je comprends pas comment me connecter à d'autres individus. Donc, ouais, c'est pas un truc qui m'avait posé question jusqu'à très récemment, en fait. Et donc, du coup, j'avais pas forcément ce besoin de vivre. Enfin, tu vois, je partais en vacances, truc bidule, mais j'étais quand même très dédiée à la tâche que je m'étais conférée avec l'asso, notamment, et j'étais à fond, littéralement à fond. Mais c'est pas que ça la vie, quoi. C'est pas que ça la vie, tu fais des rencontres de manière inattendue, et tu te dis, ah ouais, ok, il y a peut-être un autre truc que ça, et peut-être que ce truc-là va te permettre aussi de mieux faire les trucs que tu fais dans ta vie de tous les jours, le taf ou l'asso, et d'être plus détendu. Et ça, c'est pas mal aussi, en fait. Mais tu t'en rends compte tardivement, et tu dis, oh, bon. Moi, je me suis jamais inquiétée, en fait. Je me suis toujours dit, les choses, elles arrivent au bon moment, avec la bonne personne, et c'est cool. Ça tarde un peu, mais vas-y, je prends mon temps. J'ai d'autres occupations, tu vois, donc en vrai...
I have died so many times. So when I told you that loving you almost makes life worth it, I was not joking. When I tell you that loving you almost makes me forget how much I hate myself, it is not poetry. Loving you is taking all the love I could never give myself and putting it to good use. It is reminding myself that if someone can love a dying thing this way, can hold the Lazarus of my body and give thanks for the weight it holds back. If someone can kiss the scars, administer the pills, absorb the bad days, and wake up smiling next to me, then I can try to breathe again. Because self-love does not always come first, or second, or even ever.
T'as pris le temps pour toi? Est-ce que c'est facile justement de pouvoir ouais. Justement allier ta vie amoureuse ou enfin, sentimentale avec l'association?
Bah... Je pense que je suis quand même encore dans un truc où c'est tout neuf, tu vois, ça date d'il y a un mois et demi. Donc, je pense que je continue à avoir un fil rouge dans l'asso, mais je suis moins dans la street, tu vois. Tout le côté back-office, je le gère très bien, j'envoie mes mails, j'envoie mes poules comme il faut. Mais c'est vrai que d'aller sur le terrain, bah, c'est vrai que mes week-ends, je préfère les passer avec mon amoureuse. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a un petit décalage. Après, je pense qu'on est aussi dans la phase de lune de miel un peu, où j'ai envie de profiter d'elle et de mieux apprendre et de moi aussi mieux me connaître, parce qu'en vrai, je suis pas le jour et la nuit, mais quasi, tu vois, parce qu'en vrai, j'ai jamais, c'est ce que je lui ai dit très récemment, j'ai jamais été aussi à l'aise avec quelqu'un en 33 ans de vie. Quand je dis quelqu'un, c'est ma famille y compris, en fait. Et ça a toujours été un problème, je me suis toujours dit, ah, mais pourquoi je suis pas à l'aise avec ma mif et tout, c'est bizarre. Et en fait, voilà, quand tu comprends que t'es autiste, bon, tout va bien, tu remets un peu le truc en question. Et en fait, je pense qu'elle me permet d'être plus à l'aise avec mon monde aussi, parce que même si c'est très récent, je pense qu'on est dans un truc vraiment d'amour inconditionnel, en tout cas que j'ai moi jamais ressenti, et c'est tellement apaisant, et moi ça me détend, je suis moins dans la rigueur tout le temps, moins dans la tension, moins dans l'énervement. Et du coup, en vrai, ça me permet de mieux gérer le reste. En vrai, c'est hyper salvateur. Et c'est une rencontre totalement inattendue. Ça n'a pas de sens. Sur le papier, c'est... Enfin... Quoi ? Tu vois ? C'est genre le jour et la nuit. En fait, on se connecte sur tellement de trucs. Un peu ce truc de flamme jumelle, là, ce concept que... Alors, je suis tombée dessus par hasard au même moment où je rencontrais Juliette. Et je me suis dit, attends, le concept, il a l'air chelou, hein, il est hyper déconnecté. Alors pour moi, c'est compliqué, qui suis très, très, très terre-à-terre. Mais en fait, quand tu lis des articles dessus, tu fais, ah ouais, oh, ok. Eh, mais c'est ce que je suis en train de vivre, c'est ouf. Et c'est tellement improbable. Et en fait, moi qui suis une meuf qui réfléchit tout le temps, qui théorise, qui anticipe, qui réfléchit à comment elle va se comporter, qui angoisse beaucoup... Et bah, rien de tout ça, tu vois. Et même dans cette relation où, bah, en vrai, je m'étais jamais posé la question de ma sexualité. Je me suis toujours dit, ouais, un homme, une femme, pourquoi pas. Ramenez-moi Gillo, bah, peut-être que ouais.
Carrément même.
Carrément, de ouf, de ouf. Mais je m'étais jamais mise dans l'éventualité de, ouais, ça va être une fille ou ça va être un garçon. Je me suis toujours dit, bah, à un moment, je vais tomber sur quelqu'un et je le saurai. c'est hyper impalpable et pourtant j'ai jamais été amoureuse, j'ai jamais, je pense, vraiment aimé quelqu'un, mais je sais pas, je le saurais. Et ça a été le cas, et c'est ouf, et encore aujourd'hui c'est ouf, tu vois, parce que on s'entend hyper bien, et pourtant on est, déjà physiquement on est aux opposés, mais ça c'est pas grave, mais on n'écoute pas la même musique, on mange pas les mêmes trucs... Et pourtant, c'est fluide, tellement fluide que tu poses pas de questions. C'est ça qui est dingue. Et moi, j'ai toujours vécu dans le décalage. Et parce que pour moi, c'est là que se passe la magie. Et ça le prouve encore aujourd'hui, genre totalement, quoi.
Alors, pour les personnes qui seraient curieuses du concept de flamme jumelle, je vous conseille d'acheter le numéro de Paulette en décembre. Ouf. J'ai écrit un article. Voilà.
Alors, pour la petite histoire, je sais plus comment ça s'est passé, mais Juliette m'a... Je crois que je lui ai envoyé le lien de... En fait, j'avais une fenêtre dans mon téléphone qui était ouverte depuis, bah, quasi que je... depuis notre rencontre. Et en fait, je sais pas, c'est pas que j'ai pas osé lui envoyer ou je me suis dit, ouais, ça peut être un peu flippant, tu sais, tu parles de flammes jumelles tout de suite ou d'âme sœur et tout. Genre, je me suis dit, ouais, doucement. Peut-être que toi, tu t'es convaincue de ton truc, mais détends-toi, la fais pas flipper. Et en fait, je lui envoie le lien et elle me dit, genre, c'est ouf parce que Douce est en train d'écrire un article dessus.
Je lui fais,
mais non! Et ça encore, c'était un truc de ouf, parce que sur plein de trucs, en fait, on est en pop-up comme ça, et on se dit, soit elle pense à un truc et je le dis, soit elle m'envoie un son, qui est, enfin, et je me dis, non, mais non, c'est chambé. Et du coup, j'ai lu l'article, et je peux vous confirmer qu'il faut acheter le prochain Paulette, parce que ça va être chambé.
Yes. T'as évoqué le fait que tu t'étais pas vraiment posé de questions sur ta sexualité. Là, maintenant, comment tu t'entends avec ton genre et justement avec ta sexualité ?
J'ai essayé de déconstruire. Bah, quand je suis allée voir ma psy il y a deux ans maintenant, bah, c'était un sujet que j'ai évoqué parce que tu vois, j'ai jamais été dans la féminité. Tu sais, on a toujours dit garçon manqué, aujourd'hui ça se dit plus. C'est toujours un truc qui m'a posé question parce que forcément, du coup, j'étais à la marge de tout le temps, donc l'identité ça a été aussi un truc. J'ai fait un mémoire sur l'identité pour soi et pour autrui, donc je pense que c'est un truc qui m'a toujours posé question. J'ai essayé d'aller vers la féminité, ça n'a pas bien marché, j'ai fait un step back. Et puis à un moment, je me suis dit, ouais, c'est pas moi. S'il y a un truc, si j'ai envie de mettre une robe un jour, je le ferai. Si, enfin, tu vois, des trucs à la con. Et en fait, tu te détends et tu... Voilà, je l'ai posé avec ma psy. Et je me suis dit, ouais, en fait, j'ai essayé des trucs, ça n'a pas marché. C'est pas mon identité, donc voilà, on keep it simple, et voilà, moins de réflexion, vis le truc, te pose pas de questions, en plus on est dans une période où tout est plus fluide, tout est plus... et moins questionnable, parce que moi à l'époque, bah, il y a 15-20 ans, forcément, t'es pas une petite fille comme les autres, bah tout de suite, voilà, on te met une étiquette, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus cool, quoi, donc je pense que c'est une bonne chose de moins questionner son identité. En tout cas, si tôt, tu vois, je trouve ça des fois un peu violent, surtout quand tu la questionnes par rapport à autrui, que tu te la questionnes toi et tout, mais du coup, par rapport à autrui, il y a toujours une violence inouïe, je trouve, qui en découle. Donc moi, je me pose beaucoup moins de questions, parce que je me pose des questions sur mon entourage, donc tu vois, quand j'ai dit que à mes quelques proches que j'étais en couple avec Juliette, toi, soit il y en a qui me disent « Ah, mais je m'en doutais ». À mes frères, je m'en doutais pas moi-même. Qu'est-ce que tu vas t'en douter, toi, en fait? Genre, t'es dans ma tête, t'es dans mon corps, tu vis avec moi depuis 33 ans. Mais du coup, voilà, l'apparence de quelqu'un qui est un peu... ouais, masculine. Je sais jamais comment trop le dire, androgyne. Enfin, ça n'a... Bon, c'est compliqué, les étiquettes, hein, aujourd'hui. Soit la meuf qui prend des précautions et tout, qui peut pas se faire lyncher sur Twitter. Donc, toi, soit t'as ça, soit t'as les gens qui sont très contents pour toi et qui te connaissent très bien et qui savent que t'y vas pas, que t'y vas pour les bonnes raisons et qu'en vrai, c'est de l'amour. C'est tout, en fait. Et ça, c'est rassurant. J'ai eu beaucoup plus ce type de réaction de... J'en ai eu deux qui m'ont dit « Ouais, mais on le savait. » Ok, bah ok, c'est bien. C'est bien si tu le savais, toi. Fallait me prévenir, du coup. Peut-être que j'aurais tâté le terrain plus tôt, je sais pas. Mais du coup, je me pose beaucoup moins de questions parce que je pense que Juliette m'aide à m'accepter pleinement, que ça soit physiquement, ça a toujours été compliqué, mais aussi dans tout ce qui est compliqué dans ma tête, parce que mine de rien, je pense que sortir avec quelqu'un qui est neuroatypique, c'est pas forcément évident. Tu vois, la drague, par exemple, moi, j'ai pas compris. Pas compris ce qui s'est passé. Pour moi, j'étais dans un échange hyper intéressant et tout, j'apprenais des trucs. Et non, c'était pas ça du tout. Et apparemment, je drague sans le savoir. Donc, pardon aux gens que je drague sans savoir, mais pour moi, c'est m'intéresser à l'autre. Et bah oui, en fait, c'est le concept de base de la drague. Mais je l'ai compris après, tu vois. Donc, il y a tout un tas de trucs où je suis très premier degré, où c'est pas forcément évident pour elle.
Justement, est-ce que tu t'en as parlé à ta famille de ce couple complètement inattendu?
J'en ai parlé à mon grand frère, qui est un peu l'homme de ma vie, on va dire ça comme ça. Enfin non, j'en ai parlé par ricochet à ma belle-sœur qui en a parlé à mon frère. En fait, je trouvais que c'était le bon moment de le dire, parce que moi, je voyais déjà de l'évolution dans mon rapport à autrui, et je pense qu'eux aussi, plus ouverte, plus bavarde, plus envie de raconter des choses, et vu que Juliette fait vraiment pleinement partie de mon quotidien tout le temps, et bah ça fait partie de moi maintenant, et je pensais que c'était cool de le dire, et puis je pense qu'ils attendaient que ça, en vrai. Donc je l'ai dit parce que mon neveu venait en maraude après, et qu'il allait rencontrer Juliette. Donc je l'ai dit à ma belle-sœur qui était trop contente et tout, qui voulait voir Juliette, qui voulait que je lui raconte et tout, et je lui dis dis-le à Wissem, pas de soucis et tout. Donc j'attendais son feedback et tout avec impatience, et elle s'en battait les couilles, elle était partie sur autre truc, je fais je dis moi, et elle me dit oui, bah il est très content pour toi, il est très heureux, voilà, pas une mille de très bavard, donc ça m'allait très bien. Et du coup, mon neveu, par définition, quand je l'ai emmené en maraude, je lui ai dit, ouais, tu sais, tu vas rencontrer Juliette et tout. Je pensais que sa mère lui avait dit, tu vois. Et il me fait, ouais, bah c'est cool. Je fais, ouais, mais c'est ma copine. Il me fait, ouais, bah c'est bien. Genre, t'as des potes, c'est cool. Et je fais, non, mais tu sais, il était quoi, 9h, je crois, c'était dimanche. Et j'ai commencé à lui dire, oui, mais tu sais, dans la vie, il n'y a pas que des relations hétéronormées. Mec, il avait 12, 13 ans. Et il me fait, et puis c'est un mini ado, il me fait, ah ouais, ok. Je lui fais, ouais, mais c'est tout ce que tu me donnes, frère. Et il fait, non, après, du coup, on a continué la discussion, il m'a fait, ouais, mais de toute façon, tu sais, moi, j'attendais que d'avoir un tonton, mais du coup, d'avoir une tata, moi, ça me va très bien, tu vois. Donc, c'était trop mignon, et du coup, il a rencontré, il a un peu discuté avec elle, ça a été très fluide, et puis sur le retour, en fait, il m'a quasi parlé que de ça, en me disant, ouais, mais tu sais, tata, je suis très heureux pour toi, t'as rencontré quelqu'un de bien, en plus elle est jolie, et puis moi je suis contente d'avoir une tata. Je suis, oh putain, si des adultes pouvaient t'écouter, sérieux, parce que quand on est dans la rue ensemble, c'est compliqué, quoi. Ouais. Donc, et les présentations se sont arrêtées là, parce que je pense que, pour en avoir parlé à ma psy, tu vois, de l'annoncer à mes parents, je pense que ça serait compliqué, culturellement, religieusement. Et je pense qu'à un moment donné, quand les choses vont évoluer, il faudra. Et c'est pas un truc qui forcément m'angoisse, mais je me dis quand même que ça se passera pas bien. Tu vois. Donc, ma psy me dit, oui, bah c'est pas la peine. En tout cas, pour l'instant, c'est pas un truc qu'il faut évoquer. On verra comment les choses évoluent, mais je pense que c'est les seules personnes de mon entourage qui pourraient forcément très très mal réagir. Et en même temps, je me dis, s'ils ont l'habitude que je fasse rien comme les autres, j'ai toujours été un peu chelou à la marge, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Que peut-être qu'en fait, ça serait fluide, tu vois. Donc voilà, le seul truc dont j'ai peur, c'est effectivement de rompre ce lien, quoi. Donc, si c'est à ce prix-là, je sais pas si c'est utile, tu sais, ils sont vieux, mon père, il a 80 piges. Est-ce que c'est utile, quoi? C'est ça. Et c'est les seuls, je pense, où vraiment ça serait problématique, le reste, fluide. Je pense que si moi je suis convaincue de mon truc, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens?
Oui, en plus, voilà, ça revient un peu cette idée de l'injonction coming out. Fin...
Oui, c'est ça. Bah, c'est un truc dont je me suis interrogée avec ma pote Clara à un moment. Je me suis dit, ouais, mais j'ai la flemme de faire mon coming out. Elle m'a dit, quel coming out? Tu vis ton histoire d'amour, tu t'en bats les couilles. Les gens, ils sont contents, pas contents, point, ça s'arrête là en fait. Et effectivement, je pense que faut que les choses soient naturelles. Après, voilà, tu l'annonces à des gens que t'aimes beaucoup, mais c'est pas vraiment faire son coming out. J'ai juste dit, j'ai rencontré quelqu'un, ça s'appelle Juliette, tatatin, c'est tout. C'est pas, oui, j'aime les filles et tout. Parce qu'en vrai, j'en sais rien. Peut-être que j'aime les garçons, peut-être que j'aime les trans, les hommes trans, les femmes trans, j'en sais rien. Moi, j'aime les êtres humains. C'est très cucul après ligne de dire ça, mais quand tu crois aux rencontres, bah ouais, tu te formalises pas sur des étiquettes, sinon, sinon c'est de la merde ce que tu dis. C'est tout. Donc, moi je sais que c'est un truc qui me fait un bien fou, et que effectivement, s'il y a des gens qui le prennent mal dans mon entourage, bah tant pis en fait. J'aime juste quelqu'un d'autre, les mecs. C'est, tu vois, genre j'ai tué personne, j'ai violé personne.
Contrairement à Polanski, oups, j'ai rien dit.
Ouh, ça clash, n'allez pas voir son film.
Non, surtout pas. Et ouais, t'as parlé un peu de la, ouais, du regard des gens, de la violence dans la rue quand vous êtes toutes les deux ensemble. Est-ce que t'étais préparée à ça?
Franchement, en vrai, je me suis toujours dit, je suis pas quelqu'un de très démonstratif, donc je me suis toujours dit, même si j'étais en couple, je pense que dans l'espace public, j'aurais probablement pas été quelqu'un de très tactile. Donc c'est pas un truc qui m'a... Déjà, je ne m'envisageais pas amoureuse, donc déjà, en partant de là, c'est pas un truc que j'ai envisagé du tout. Mais en fait, on est des aimants avec Juliette, et du coup, on a du mal à se détacher l'une de l'autre, bah, à pas se tenir la main, à pas se truc. Et c'est vrai que moi, je le vois moins qu'elle, parce qu'elle est plus attentive à son environnement. Pour le coup, moi, je suis plus autiste dans l'espace public, donc c'est vrai que j'ai l'impression que vous êtes tellement connectée avec elle que le reste, je m'en bats les steaks. Et en fait, c'est quand même... Elle le remarque. Moi, je le remarque quand vraiment les gens se retournent. Et il y en a. On a des remarques aussi. Souvent, des remarques en arabe nous sont destinées, donc je les entends. Des regards haineux. Donc je m'y attendais, hein, en vrai, c'est la France, les mecs, donc en vrai, on n'est pas dupes. Mais tu vois, on était en week-end à Lille, ça s'est hyper bien passé, genre fluide, tu le remarques pas du tout. Donc il y a deux salles, deux ambiances, je pense. Maintenant, je pense que je suis quelqu'un qui est un peu énervé, donc faut pas trop me saouler avec ça, par contre, parce qu'on n'emmerde personne, donc... Bon, je pense que Juliette sera plus énervée que moi plus rapidement. C'est assez étrange d'ailleurs, mais je pense que c'est elle qui va se battre. Donc les mecs, faites gaffe. Petite, mais elle va pas rigoler avec vous. Donc, et je pense qu'il y a moyen qu'à un moment donné, ça monte en tension et que... je vais pas me battre, mais... tu vois, au même titre que quand je suis dans la rue avec des sans-abri, que les gens se retournent, au fond des remarques, bah ouais, là je vais être... j'ai pas le temps, quoi. C'est bon, les mecs. Je suis pas là pour subir, en fait. Moi, je vis ma vie. Je viens pas vous saouler parce que vous êtes moche. donc venez pas me saouler dans le truc que je vis. Et j'ai pas envie d'arrêter d'être démonstratif à cause des gens. Et ça n'arrivera pas. Donc.
Qu'est-ce qui te donne de la force aujourd'hui, Agi?
La drogue. Non, je rigole.
N'amusez surtout pas.
C'est la meuf qui s'approche du micro qui dit là. Non, ne touchez pas à la drogue, les enfants. Je pense que ce qui me donne de la force... le premier truc, en vrai, là, si je te parle à l'instant T, c'est Juliette. Ou en tout cas, l'amour. Si on dépersonnifie un peu tout ça, c'est l'amour. Et toute la force que j'ai de l'asso, des bénévoles qui sont là au garde à vous quand j'ai besoin d'eux... de la force de nos actions, de la façon dont on le fait, qui je pense est la bonne et pas tant faite de la même manière que nous sur le terrain, et donc du coup ça donne un sentiment hyper hyper fort. Des gens qui nous laissent des mots sur les réseaux sociaux, enfin il y a tout un tas de trucs qui du coup compensent la charge mentale dont on parlait tout à l'heure et qui fait que ok c'est rude des fois parce que tu vois pas le bout, tu t'en sors pas, t'as pas envie. Et bim, tu reçois un message qui dit ouais, c'est chiant, mais ce que vous faites, je suis à l'autre bout de la France ou l'autre bout de la planète et j'aimerais bien vous accompagner, mais je peux que vous envoyer de la force. Mais les mecs, envoyez de la force. C'est chiant, mais parce que sur le terrain, on est suffisamment. Et je veux pas que ça soit une asso où il y a un million de bénévoles, c'est nul. Je veux que ça reste hyper familial et qu'on se connaisse et qu'on kiffe ensemble quand on se retrouve. Enfin, tu vois, là, juste après, on va faire les kits hiver avec les bénévoles. Bah, je suis hyper pressée de les retrouver parce que du coup, vu que je passe plus de temps avec Juliette, bah, je les vois un peu moins. J'ai pas fait la dernière maraude et tout. Mais c'est la MIF, donc c'est la MIF et ça me donne une force incroyable de continuer. Et puis les gars sur le terrain, parce que même s'ils sont dans des situations compliquées, bah, en vrai, ils gardent toujours de la force pour m'en donner. Et je trouve ça ouf. Ouf, et je prends tout parce qu'il faut tout prendre. En vrai, la vie, elle est tellement dure qu'il faut prendre toute cette force. Donc, je pense que ces choses-là me donnent de la force tout le temps. Et c'est d'autant plus facile quand t'as un smartphone, quoi. Parce que t'en as tout le temps, où que t'ailles, de la force. Et ça, c'est chambé, quoi.
Et la question rituelle, Est-ce que tu t'es déjà sentie majoritaire?
Oula, bah non. Mais je me suis... Mais je pense que j'ai tellement de présence et de voix que finalement, même quand j'étais minoritaire, j'affirmais tellement que bah, je faisais plus de bruit que les autres, j'étais déjà beaucoup plus présente physiquement que les autres. Donc je me suis sentie minoritaire à plein de reprises dans ma vie et en même temps, j'ai toujours compensé pour... soit compenser mon autisme, soit compenser ce truc d'être minoritaire pour plus m'affirmer. Et même si c'est jamais évident, tu vois, d'être toute seule dans son truc, faut toujours prendre le pli. Enfin, moi, c'est ce que je dis à mes jeunes, de faire semblant d'être à l'aise et d'avoir confiance en soi. Et ça marche, parce que pour la preuve, on n'arrête pas de me dire que oui, mes prises de parole, ça va, t'as l'air à l'aise, c'est cool. Ouais, clic, c'était charmé. Ah ouais, mais les mecs, je crois que vous savez pas ce qui s'est passé avant, après, au maquillage, je me suis fait maquiller, enfin, tout ça a été, beaucoup d'émotions, et puis c'était la première fois que je revoyais Juliette après notre soirée de la veille, donc tout était compliqué pour moi, et finalement j'ai été à l'aise pendant, mais ça veut pas dire qu'avant et après j'ai pas été hyper mal à l'aise, hyper stressée, hyper angoissée, donc ouais, même quand vous êtes minoritaire... prenez le parti de faire semblant d'être à l'aise et d'être confiant, et généralement ça marche assez bien.
Ouais. C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, iTunes, Spotify, SoundCloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires.
S'il vous plaît, merci.
Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.